Chapitre 13. Le triangle des Bermudes ? Andy éclate d'un petit rire qui couvre un instant le bruit du réacteur du Falcon 900, puis elle reprend, moqueuse. « Vous vous fichez de moi avec mes croyances petites princières, mes mystères de l'astéroïde B612, et vous, monsieur aviateur, vous avez peur du triangle des Bermudes ?» Je bafouille. J'adore quand le rire de ma copilote carillonne. Mais ces mots grelots continuent de tintinabuler. « Vous savez, Saint-Exupéry a survolé ce triangle des dizaines de fois, et il ne lui est rien arrivé. » Je me sens dans la peau d'un vieux professeur. Son insouciance fait fondre l'étrange angoisse qui paralyse mes doigts. De la main, je désigne l'archipel qui commence à disparaître sous l'avion. Ce n'est pas qu'une légende. Des tas de navigateurs se sont perdus ici, n'ont plus jamais donné aucune trace de vie. Comme Saint-Ex ? Continuez, pour une fois que c'est vous qui me faites la leçon. Les Bermudes. Ce sont entre 100 et 200 îles perdues au milieu de l'Atlantique. C'est l'atoll le plus éloigné de l'équateur. Un immense plateau corallien où l'eau très peu profonde voisine avec des gouffres de plus de 1500 mètres. Selon la marée, des îles apparaissent ou disparaissent. Des récifs, des grottes, sans oublier les éruptions volcaniques et les lumières sous-marines. Des roches parmi les plus magnétiques au monde qui affolent les boussoles. Bravo! Vous êtes aussi calé que Saint-Ex en géo. Elle observe les Bermudes se réduire à des petites têtes d'épingles plantées dans un drap d'azur, puis fixe avec un sourire le tremblement de mes mains. Heureusement qu'on ne risque rien en les survolant d'aussi haut. Méfiez-vous. Dans le secteur, on signale tout autant d'avions que de bateaux disparus. La simple évocation d'une disparition aérienne semble la faire réfléchir. Moi aussi, d'ailleurs. Je continue sur ma lancée, poussé par une curieuse association d'idées. En parlant de disparition, une question me chiffonne. D'accord, Saint-Exupéry est mort, abattu au-dessus de la Méditerranée, même si l'on n'a pas retrouvé son corps. Mais quelle preuve a-t-on que le petit prince est bien mort ? Nous sommes censés être deux enquêteurs payés, très bien payés même, pour découvrir qui a tué le petit prince. Mais de quelle certitude dispose-t-on pour affirmer qu'il y a eu crime ? Le regard admiratif d'Andy me pousse à poursuivre. Dans mon souvenir, tout indique qu'il retourne gentiment sur sa planète retrouver sa rose, qu'il se contente d'abandonner son écorce corporelle, une sorte de téléportation. Andy applaudit des deux mains, façon lapin mécanique. « Encore bravo ! Vos souvenirs sont précis, monsieur le professeur. Beaucoup de lecteurs pensent comme vous. Le petit prince est un joli conte optimiste. Le héros n'est pas mort, il retourne simplement faire du jardinage chez lui, sur son astéroïde. Et vous ? Je le pensais aussi, au début. Je voyais le petit prince comme un ami bien vivant dans les étoiles, avec son mouton et sa rose. C'est l'impression joyeuse que laisse le récit lors d'une première lecture rapide. Mais Saint-Exupéry sème trop d'indices pour que le doute soit permis. Le petit prince est bien mort. Allez-y, inspectrice. Prouvez-le-moi. Andy fait mine de se concentrer, yeux plissés et corps roulé en boule sur son siège plus grand qu'elle. Ok, voici les preuves. Pour commencer, quand le petit prince arrive sur Terre, de façon très étrange, la première personne qu'il croise est le serpent. Et immédiatement, la douce comédie des 6 astéroïdes devient tragédie. « Celui que je touche », affirme le serpent. « Je le rends à la terre dont il est sorti. » La mort est annoncée de façon terrible et brutale. Un peu plus loin, lorsque le petit prince retourne voir les roses, il les prévient. « Vous êtes belles, mais vous êtes vides. On ne peut pas mourir pour vous. » Ça sous-entend évidemment qu'il est prêt à mourir pour sa rose. Et qu'il le fera. Quelques pages suivantes. Il avoue à l'aviateur, c'est bien d'avoir eu un ami, même si l'on va mourir. Saint-Exupéry ne peut pas être plus clair. Mais je croyais que le petit prince avait dit ensuite quelque chose comme « J'aurai l'air d'être mort et ce ne sera pas vrai ». Oui, le petit prince, le soir où il se fait mordre par le serpent, prévient son ami aviateur. Cette nuit, ne viens pas. Tu auras de la peine. Il ajoute même, tu comprends, c'est trop loin. Je ne peux pas emporter ce corps-là, c'est trop lourd. J'admets, il dit, j'aurai l'air d'être mort et ce ne sera pas vrai. Mais ensuite, il se tait, parce qu'il pleure. Et ensuite encore, il s'assoit parce qu'il a peur, juste avant l'éclair jaune. Pourquoi pleurerait-il ou aurait-il peur s'il partait rejoindre sa rose et son astéroïde? Je crois qu'il sait qu'il va mourir, que son corps va tomber dans le sable, mais pour rassurer son ami, il parle d'écorce à la place de cadavre et d'étoiles à la place de paradis. Je remarque les larmes qui perlent au coin des yeux d'Andy. Je me rends compte seulement maintenant à quel point les disparitions de Saint-Exupéry et de son petit héros blond sont comparables. Pendant de longues minutes, je ne trouve rien à dire pour repousser le silence. Nous continuons de survoler la mer vide, avant qu'enfin, les premières lumières du continent apparaissent. Des milliers de lumières. Le contraste avec le désert océanique est saisissant, comme si tous les Américains s'étaient rassemblés sur la côte est. Andy sèche ses larmes, ému de découvrir l'Amérique. Les hommes occupent très peu de place sur la planète, dit-elle. Saint-Exupéry a écrit dans Le Petit Prince que si les milliards d'habitants qui peuplent la Terre se tenaient debout et un peu serrés, comme pour un meeting, ils logeraient aisément sur une place publique. Qu'on pourrait entasser l'humanité sur le moindre petit îlot du Pacifique. J'ajoute, alors que je survole les premiers gratte-ciel, ou sur Manhattan.